Salut tout le monde et bienvenue dans le cinquième épisode du Week Pass. Salut Simon, comment ça va?
Ça va, un peu serré cette semaine.
Et pour la bonne cause, pour la bonne cause, vous aviez suivi notre gage de la semaine dernière autour du All-Star Break, All-Star Weekend plutôt.
Oui.
7 paris, j'en ai gagné 3, t'en as gagné que 2.
Ouais, mais Kawhi, il a failli.
En vrai,
Mais t'as gagné.
t'étais plus proche que moi dans l'idée du week-end, mais
Oui, toi, t'avais Jamal Murray World, et alors moi, j'avais Kawhi et les vieux. Qui était plus proche, effectivement, mais c'est finalement Ant et les jeunes Américains qui ont.
exactement.
Voilà. On avait tous les deux les Knicks parce qu'on sentait bien que c'était le genre de trophée qu'ils pouvaient mettre dans leur besace.
T'avais annoncé le back-to-back sur la saison.
Ouais. Comment il s'appelle déjà le rookie des Spurs? J'ai un trou maintenant.
Dylan Harper?
Non,
Ah, Carter Bryant.
Carter Bryant, c'est-à-dire le double dunker, le mec au deux noms de dunker. Bah, en fait, comme il a merdé, il
Il
m'a
a
fait
bien
gagner. Il m'a
choqué,
fait gagner sur Keyshawn. Sur comment?
Keyshawn Johnson. On connaît
Keyshawn
toujours pas son
Johnson,
nom.
ouais.
Très bon danseur, hein.
Ah
Apparemment,
bah, et puis alors.
danse avec les stars, l'ont déjà contacté pour
Meilleur danseur que Dunker? Je ne sais pas. La question, après son concours, la question n'est pas tout à fait. Reste ouverte, on va dire.
Ça se débat. Et moi, j'avais été bon
Et.
sur le
Ah ouais.
vendredi, sur le Rising Star, grâce à
Ah, tu m'as
Vidi
démoralisé d'entrée. Je me suis dit, le mec a la vision. Parce que Edgecombe, oui, mais quand même. T'as failli prendre une petite remontada quand même. T'as sué
Clairement,
un peu dimanche, non?
clairement,
Quand t'as vu
clairement.
Kawhi mettre soute sur soute.
Après la demi-finale, je t'ai envoyé un petit message en mode bon, je crois que ça va être pour moi. Mais donc voilà la première partie du gage. J'aurai une deuxième qu'on vous révélera plus tard dans l'émission. Mais
Worm.
c'est mon maillot, Dennis Rodman.
Écoute, je suis quand même plutôt bien loti pour un gage parce que je pense que tu le sais, Dennis Rodman, c'est tout en haut dans mon panthéon de joueurs. C'est un peu un doudou d'enfance hein, pour moi. J'ai grandi quand
D'accord.
même devant les Bulls du deuxième Threepeat. Et Rodman, c'était quand même un peu mon chouchou parce que moi, j'étais pas si fort que ça au basket. Donc, si Jordan et
Au moins il l'attrapait.
Pippen, tu les regardes comme ça. Et Rodman, tu te dis, tiens, il y a peut-être des trucs à prendre et tout. Et en plus, c'est le maillot noir des Bulls que je trouve globalement. Tu sais que c'est pas loin d'être le maillot le plus.
Le
Ou
plus
l'un
beau
des
qu'on
plus
ait.
iconiques, je trouve encore plus que le rouge. Moi, j'adore le maillot noir des. Bah voilà,
Je suis assez
le
d'accord.
noir des Bulls, il claque, quoi.
Récemment, là, avec les petites rayures rouges, etc.,
Ah,
j'aime beaucoup.
il est Chicago, quoi.
Et au-delà de ça, comment s'est passée ta semaine avant qu'on attaque celle du basketball?
Hyper rapide, parce qu'en fait, on a tourné, il y a eu le All-Star Weekend, et on se retrouve déjà, bah, avec grand plaisir, pour le Week Pass, c'est la cinquième édition
Cinquième,
déjà.
ouais.
Et toi, ta semaine?
Bah ça va, j'étais en congé,
Ça
on
va?
va pas se mentir. Donc, quelques fêtes, quelques footings, quelques JO d'hiver. Oh, j'ai pensé à toi hier, le
Ah ouais?
ski alpinisme, t'as vu ou passé ou pas?
Non, pas du tout.
Ah, c'est le genre de.
Je suis pas du tout rentré dans les JO d'hiver. C'est fini quand là? Il reste des trucs encore?
Dimanche, ouais. Mais c'est le
Ouais,
genre de
c'est
sport qui
raté.
te
Je les ai
plairait.
ratés.
Ouais,
Je suis catch en famille et tout, c'est raté les JO d'hiver.
va regarder parce que ski alpinisme. Ils courent en ski de fond, après ils mettent les skis sur leur dos et ils montent des escaliers.
Ski alpinisme.
Ouais.
Parce qu'on dirait qu'ils précisent pour les gens qui n'avaient
Non,
pas
c'est
compris
ça.
que le ski
Non, mais
alpinisme.
parce qu'en
Ok.
fait, ouais, c'est ça. Ils montent,
Ouais.
ils mettent les skis sur leur épaule, après ils font une boule avec leurs gants qu'ils mettent dans leur maillot. Ça a aucun sens. Hein. Je
Ah
te
ouais,
jure, faut que t'ailles
ok,
voir.
là tu me donnes un peu envie, je
Je
t'avoue.
te jure,
Ça a
c'est le
l'air
genre de
bien
sport
hard.
qui te plairait.
Ok.
Mais bon, on va parler d'un sport qu'on connaît tous les deux un
Oui.
petit peu mieux.
Oui.
Et c'est le basketball. On va commencer avec les news de la semaine. Et qui est très beau
Ouais.
bandeau de Léonce, encore une fois.
Il n'y a pas trop de news parce que c'était une semaine. Enfin, il n'y a pas eu trop de matchs, il y a eu quelques news, mais parce que bah, à cause de All-Star Game et semaine de congé de Robin. Donc les mecs,
C'est ça.
on est mollo-mollo sur les news. Mais quand même, qu'est-ce que tu as retenu dans les news?
Bah, c'est beaucoup de blessures, malheureusement. Ce qui est sorti cette semaine, on va les faire assez vite, en effet, comme tu
Ouais.
as dit, les news. On a du Kyrie qui finalement jouera pas de la saison avec les Mavs, c'est logique.
Pas très sûr, on s'y attendait, maintenant c'est officiel.
Dans le même genre, niveau tanking, vous êtes complètement entré dans votre match avec Zach LaVine et Domantas Sabonis qui joueront plus de la saison. Les deux,
Ouais.
ça a été annoncé en deux jours en plus. En
Coup
deux
sur coup.
jours, clairement. On a, par contre, moins sympa, on a Steph Curry, en effet, absent 10 jours. Là, les Warriors, ça commence à. Ils sont encore dans le play-in, ils ont une belle marge, donc je pense qu'ils vont y rester. Mais ça va se rapprocher de la 10e place très rapidement, quoi, parce que
Ouais.
ça commence à sentir mauvais. Et
Saison quand même assez.
assez moyenne.
Assez. Ouais, puis dur, je trouve, pour les Warriors. Assez sévère, tu vois. C'est malchanceuse.
Même Porzingis qui arrive alors que t'attendais
Il a joué
Giannis, hein.
hier, ceci dit.
C'est ça. Et la dernière blessure, on est encore dans le play-in, mais à l'est avec le Magic et Franz Wagner qui est out encore pour une durée indéterminée. Bon,
Comme d'hab.
c'est ça, l'infirmerie d'Orlando, c'est n'importe quoi.
Petite stat là-dessus, tu sais que sur. En gros, le trio majeur Wagner, Banchero, Suggs aurait pu disputer 135 matchs en cumulé
Ok.
entre la saison dernière complète et là où on en est. T'as une idée de combien ils en ont joué tous les trois? C'est une stat qui a tourné un peu partout là pour marquer quand même le gros problème d'Orlando.
Je l'ai vraiment pas vu passer, mais je dirais franchement une quinzaine,
Ouais,
j'abuse.
alors 14% des matchs, soit 19
matchs. Ouais, c'est bah, ça, on est là-dedans. Ouais, c'est terrible.
Imagine 15% des matchs, quoi.
T'as l'impression que vraiment, ils sont pas blessés au même moment, ça s'enchaîne.
Cascade.
Encore une fois, l'effectif, il est beau sur le papier, mais ça avance pas, le Magic. Une équipe qui continue à avancer, alors qu'on aurait pu croire qu'à l'intersaison, elle baisse un petit peu en régime, c'est les Clippers, avec ouais. Transfert de Kawhi, notamment Bénédicte Mathurin, la nouvelle recrue, qui a mis 38 points contre les Nuggets.
Bah, cette nuit, là, ouais. Ils ont. Alors, c'est Murray qui a 3 lancés, je crois, pour. Égalisé, qui en rate un et qui du coup offre entre guillemets la victoire aux Clippers. Et c'est vrai que ce qu'on retient, c'est quand même 38 points en sortie de bond de Mathurin, qui a fait un match assez ses débuts en plus à domicile assez flamboyant
dans
son nouveau public.
J'ai vu un tweet de Lili Batum qui dit que leur fils est déjà absolument fan
Le 9 il est trop fort
de Bénédicte Mathurin, c'est ça, et que du coup il a l'air de s'être bien intégré au vestiaire.
Ouais.
On rappelle qu'il parle français, donc en plus avec Nico, ouais, ça doit faciliter.
Mais ces Clippers New Look là sont assez intrigants, hein, quand même. J'ai hâte de voir. J'espère que Garland va jouer là. Et je regarderai ça avec attention, franchement.
Je comprends. Une autre news qu'on a eue, c'est autour du tanking. On va pas forcément développer énormément parce qu'on va attendre que.
Ah, tu Google Trad toi tu
Ouais, on y va.
Ouais, ok.
Que quelque chose s'officialise, mais en gros, ce que nous dit Shams, c'est qu'il commence à faire des réunions, à discuter de plusieurs options. Je vous laisse un petit peu lire. Pour la plupart, là, vous les avez tous à l'écran. Moi, il y en a assez peu qui me convainquent dans cette liste.
Ouais, pas assez de recul, mais il y a des choses. Il y a plein de mesures un peu en vrac. Je sais pas. La vraie news, c'est qu'ils réfléchissent au tanking. Cette année, ils vont encore laisser le truc parce que c'est en cours, mais que l'an prochain. Ça va être une autre limonade.
Là, notamment, la trade deadline, ça va faire que avancer le tanking, selon moi.
Voilà, la trade deadline, c'est vrai que ça fait peur parce que tu dis, bah en fait, ils vont commencer à juste tanker plus tôt.
C'est ça.
Il y a des choses qui sont pas si bêtes comme l'histoire de protection, que ce soit plus clair et qu'en fait, tu assumes pour les équipes de commander des transferts. Ça, c'est pourquoi pas, mais je sais pas. En tout cas, on risque de reparler non seulement des mesures quand elles seront plus concrètes, parce que là, c'est pas officiel.
C'est a priori des bruits
en réunion de ce qui a été évoqué. Je pense qu'ils vont pas forcément tout valider. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont émerger. Et on reparlera du tanking, parce que c'est vrai que c'est un sujet majeur cette année. Et on le voit, la Ligue a décidé de prendre le problème à bras le corps.
Et un sujet qui nous concerne plus que jamais.
Ah, bah oui, nous, on est aux premières loges.
C'est ça. On va passer à l'image de la semaine qui va nous permettre de faire un petit retour sur le All-Star Weekend. Mais en effet, c'est Damian Lillard, peut-être le moment le plus marquant du All-Star Weekend. Enfin, j'ai demandé toi ce qui t'a le plus touché. Mais on l'a vu revenir directement sans jouer un match cette saison, évidemment, et faire une performance encore magnifique pour remporter pour la troisième fois ce concours.
Ouais.
Devant Ken Knuppel, qui avait fait une très bonne première manche, et surtout Devin Booker, qui a un peu de choke à la fin. Il y a beaucoup de choke, je trouve, dans ce All-Star Weekend.
Booker a les balles, les trois, je crois, pour.
C'est ça.
Et puis il est égalisé, les trois, moi, j'étais persuadé qu'il allait en mettre au moins une. Enfin, tu vois que c'est. C'est vrai que le concours à 3 points reste un standard pendant le All-Star Game assez élevé et en plus les stars jouent le jeu. D'ailleurs Lillard à ce sujet il a donné rendez-vous l'année prochaine.
L'année prochaine en gros il a envoyé un message à Curry en lui disant de participer l'année prochaine avec Klay Thompson, Devin Booker et 4 autres gros shooters. Et ça pourrait être sympa à voir. D'ailleurs moi je t'avais préparé
ça donne envie.
Je t'ai préparé les 4 autres gros shooters que j'aimerais voir avec.
Ouais.
Là t'as ces 4 là, tu les as en tête? Moi, j'ajoute Con Knuppel parce qu'il a quand même fait une très belle première. J'ai envie qu'il reste et qu'il ait encore sa chance.
Con Knuppel, on va le voir au concours de 3 points tout le temps. J'ai l'impression qu'il dès le premier, il s'est dit, moi, je vais le gagner. Il est dans le standard énorme shooter, donc oui, évidemment.
J'espère. J'ai pensé à Buddy Hield, mais je me suis dit, en fait, je préfère vraiment y aller sur les gros noms.
Ouais.
On a un James Harden qui n'a pas participé depuis longtemps, où il est quand même dans les standards des plus grands shooters à 3 points en termes de volume, en tout cas.
C'est un shooter de concours, tu vois ce que je veux dire, arrêter tout ça et tout.
Un qui l'a pas été, la première fois qu'il a participé, c'était Kevin Durant. On a vu les images ressortir où il avait fait un concours catastrophique, c'est quand même un shooter. J'aimerais qu'il ait une deuxième chance.
Il ira pas.
Ouais, il ira pas, mais dans ce plateau, ce serait magnifique.
Par contre, il s'empêchera pas de tweeter sur le sujet.
C'est ça. Et en dernier, j'ai Anthony Edwards qui fait que progresser. Ça fait 2 ans qu'il est dans les meilleurs shooters de la ligue.
C'est vrai que Ant, il commence à être sacrément impressionnant avec son shoot. Il est réglé, son shoot. Ça pourrait être sympa.
Voilà, moi, c'est mon plateau de rêve.
Okay.
Là, les 8 là, que des gros noms, que de la star
qui
va se rentrer dedans.
Pas de grand dadé, par exemple.
C'est Kevin Durant, le grand dadé.
Ouais. Moi, j'aimerais bien, mais parce que je suis un con, qu'on prenne officiellement, mais après, ils auront pas l'humour, les joueurs on va dire à plus de 20 minutes par match qui ont les pires pourcentages.
Ah oui, ça serait marrant.
Et qu'on fasse un concours entre ces 8 mecs là je sais pas qui
avec
ils
plaisir
sont, mais tu vois, ça me ferait marrer.
On y va tout droit.
Voilà,
mais du coup je te disais que moi c'est peut-être l'image qui m'a le plus marqué ce week-end. Est-ce que Est-ce que toi, c'est ton image du All-Star Weekend ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont plus convaincu, plus touché?
C'est vrai que Lillard, ce qui est cool en plus, c'est la seule occasion qu'on a de l'année
Oui, c'est vrai.
d'en parler ou de le mettre en image de la semaine, puisque il est venu vraiment, il est blessé hein, officiellement toujours, il est
Bien
out pour
sûr.
la saison.
Ah oui. Bah, peut-être qu'il va sortir un album et qu'on pourra mettre sa
Oui,
cover en
c'est
image de
vrai.
la semaine.
Mais là, il a fait un
sinon.
peu un Veni Vidi Vici, je
Ouais.
trouve, assez classe quand même, en disant bah, en fait, c'est mon trophée, les gars, ça à moi, et même blessé, ça m'appartient.
Mon poignet est pas blessé, quoi.
Voilà, donc ça. Après, dans le All-Star Game en général, ce que j'ai retenu, en termes d'image, on a mis Lillard et tout, mais c'est vrai que on a beaucoup parlé de Wemby quand même, et les joueurs Anthony Edwards, par exemple, qui reçoit l'MVP, qui dit d'être
Bien
débile,
sûr. Wemby set the tone.
voilà, Wemby 7 de tone, etc. Et tout. On a la quote, non, il me semble, ou je
Non,
sais
on l'a
plus.
enlevé. On l'a
Ah oui,
enlevé.
on l'avait préparé, pardon, autant pour moi. Et puis, bon, Anthony Edwards MVP, mais je pense que moi, et c'est un peu lié à notre take, moi, c'est Kawhi qui fait des checks sur des checks sur des checks,
La
Robin.
demi-finale, elle est exceptionnelle. 31 points en 12 minutes.
Ouais.
Et vraiment, on avait l'impression qu'il pouvait shooter de n'importe où, ça allait rentrer. Bah, le genre de moment qu'on aime, t'avais toutes les stars qui rigolaient tellement c'était insolent. Et vraiment, bah, il aurait
Ouais.
mérité le trophée d'MVP rien que sur ce match presque. Bon, il a un peu craqué sur la finale, comme toute l'équipe des adultes.
Très Clippers, finalement.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, du coup, toi, dans l'idée, t'as aimé le tournoi du dimanche?
Ça marche, ça fonctionne. Et ouais, franchement, après la pause avant la finale, a cassé un peu les jambes. Je sais pas, la finale, c'est en fait le match qui a un
Clairement.
blowout et qui est le moins intéressant. Une précision tout de même, en tant qu'Européen, Français, etc., les horaires de tout le week-end, hein, ça joue pour nous, je
Ah,
pense.
c'était un plaisir.
Ça aide à. J'aurais bien aimé, par honnêteté intellectuelle, avoir. Enfin, non, j'aurais pas aimé du coup. Mais si cet All-Star Game avait eu lieu à l'horaire habituel, là, commencé à 2h du mat, que la pause avant la finale c'était du 4h30 ou je sais pas quoi, ou 3h, enfin bref, tu m'as compris.
Est-ce qu'on aurait autant aimé?
Ouais, c'est intellectuellement, tu vois, je me pose la question quand
Et puis c'est un côté un peu égoïste pour nous parce que dans l'autre sens, le pire moment du week-end, le concours de dunk cataclysmique, le fait qu'il soit aussitôt et
Non,
que.
le pire, c'est le Rising Shooting Star Challenge, là. C'est
Le
ce, ça, le
Shooting Stars,
pire.
oui,
Oh,
mais bon, au moins on n'avait pas
c'est
d'attente.
nul. Oh, c'est
On
vrai, c'est
n'avait
vrai.
pas d'attente. Le dunk, c'était catastrophique,
Ah, j'attendais
franchement.
rien, j'étais quand même déçu.
Ouais, je comprends. Mais la salle, elle était quand même très vide
Ouais.
pour les concours, donc peut-être que. Parce qu'à Los Angeles, en plus, c'est à
À
Los Angeles, donc
14h
il
en
était.
plus.
C'est
Ouais,
ça.
pour eux, du coup, c'était à
Donc pour nous,
14h.
c'était génial, mais est-ce que ces horaires ont participé au fait que, notamment, cette soirée des concours, après le sac de Lillard, soit un énorme flop, est-ce que ça a joué? Peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, ils ont gagné le droit d'avoir une deuxième édition un peu de la sorte avec ce
Ouais,
système.
je pense que la formule, le tournoi, ils vont le reproduire l'an prochain. Honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être trouver autre chose à la place du Rising Star, là, justement, du Shooting Star, pardon, du Shooting, je sais plus comment ça s'appelait,
Shooting
le truc
Stars,
qu'ont gagné les Knicks.
ouais. Ouais.
Remettre quand même. C'est bizarre de commencer par le concours à 3 points, je trouve.
Ouais, je peux
Mais
comprendre.
bon, c'est peut-être la force de l'habitude de l'avoir un peu plus tard.
Retrouver un concours, un jeu avant, ouais.
Et le concours de dunk, moi, je t'avoue que. Ah si, déjà, mais en live, moi, j'ai eu peur pour.
Jayce Richardson?
Ah, je te jure,
Ouais.
il tombe sèchement et wow.
Ouais, je rigole, c'est pas bien, mais parce que maintenant on sait qu'il va bien.
Ouais,
Mais je trouve que
t'as le
c'était
droit
tellement le résumé
à la
du
chute
concours
là.
globalement. Et puis vraiment, moi c'est le premier dunk de Jackson Hayes où j'ai explosé de rire devant mon écran, quoi.
C'est vrai
C'est un
que
dunk en transition.
même en match, c'est un dunk quelconque.
Franchement, même moi je m'entraîne 3 mois, je pense que je peux le placer, quoi. Peut-être pas,
Prochain hot take, Robert.
mais,
Prochain hot take.
non, mais dans
Prochain
l'idée.
gage. Et petit et un dernier mot pour finir. Je trouve que Jokic et Doncic, mais surtout Jokic. Je rappelle, ils ont joué 5 minutes le premier match, ils n'ont pas joué du deuxième, ils avaient pas. Encore, je trouve Lucas à la rigueur, ça se voyait un tout petit peu qu'il était. On l'a vu un tout petit peu. Jokic, on l'a même pas vu
Jokic, il
qu'il
en
était.
a rien à faire. Il a fait sa séquence avec Wemby dans l'immense, il avait un bouquin, c'était la fin de son week-end.
Ouais, mais en fait, je trouve. C'est pas si grave finalement. Tu vois, on a entendu bon, il en a rien à faire. Un peu moralisé un peu, t'es quand même invité au All-Star Game, hein, tu devrais jouer le jeu. Je sais pas, je trouve que ça fait tellement partie de la personnalité de Jokic, tu vois.
C'est vrai.
Voilà.
Mais ce qui est sûr, c'est que les stats qu'il a produits ne sont pas les stats de la semaine. Ça n'a pas été
Ah
suffisant.
non.
La stat
Stat
de
de
la
la
semaine,
semaine.
elle est juste là,
Ouais.
mon cher Simon.
C'est la feuille de match. Bah, c'est le match de Cunningham hier au Madison Square Garden.
Ouais, c'est très frais, ça date de cette nuit.
Ouais, c'est encore tout chaud. On a tendance à dire que les stars aiment bien se montrer au Madison Square Garden et que du coup, quand tu te montres au Madison Square Garden, tu valides aussi ton statut un peu de star. Bah là, Cade, il a bien fait passer le message, hein.
Bah c'est ça, là on a une vraie star. Ça va un peu dans la continuité de ma hot take de l'émission d'avant où ils continuent les Pistons à montrer que c'est vraiment les boss de l'Est. Là ils sont dépassés au All-Star, All-Star Game, plutôt au Madison Square Garden, et ont montré que bah, ils dominaient de la tête et des épaules. Et ça va un petit peu dans la suite des déclarations qu'on a vu Cade avoir plus tôt dans la semaine, où il était interviewé par le magazine GQ, il me semble, c'est ça, en disant qu'il voulait faire les Jeux Olympiques en 2028 et qu'il pense être le meilleur joueur américain. C'est une affirmation qui n'a rien de folle, selon moi.
Ben, non, 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 il n'a pas tout à fait tort. Il y a quand même Anthony Edwards dans cette saison. Il y a Jalen Brown, par exemple, on peut penser à lui. Mais bah, sur le MVP ladder, par exemple, de Trash Talk, mais aussi
Ouais.
partout, il est passé podium et il est le premier américain.
C'est ça.
Et
Juste
j'irai
devant
même
Jalen
plus
Brown.
loin, est-ce qu'il n'est pas en train de lancer avec ce match? Et là, dans le timing de la saison, on a eu au début, je trouve que sur la course du MVP, c'était Shai tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais.
Là, Détroit, c'est symbolique, mais Détroit a un meilleur bilan qu'Oklahoma.
C'est vrai.
Détroit est à 41 victoires et 13 défaites, quand Oklahoma, là, au moment où on parle, est à 42-14.
Ouais.
Bastien le faisait le remarquer hier, déjà, ce côté bilan. Cade a des stats. Cade est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, en fait.
Ouais,
Vient de...
clairement, en ce
Voilà, on
moment,
peut
oui.
affirmer ça comme ça, tu vois, en dehors du fait d'être américain, machin. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, là, mathématiquement parlant. Et tu sais que comme Jokic, alors je l'ai noté, je crois que Jokic, s'il rate encore un match, c'est mort.
Ouais.
Et Shai a une blessure à l'adducteur, là, actuellement, et commence à accumuler des... Enfin, il a moins de marge de manœuvre.
Il a une petite marge dans le sens où il lui reste 10 matchs.
Ouais.
Là, il va être encore absent une semaine, donc il risque d'en manquer encore 4-5.
C'est ça, il en resterait plus que 5, on va dire.
5-6. Non, mais c'est clair que ça va être intéressant. Même Wemby, qui est, je crois, dans le classement de Nico, qui est 5e du MVP ladder,
Je peux
qui doit,
regarder.
pareil, il doit lui manquer 2 matchs pour être hors course. Ça va jouer sur des œufs, ça va être un truc intéressant de la fin de saison. C'est clair qu'on en début de saison, si on nous a dit Kate
Victor
Cunningham.
5e, JB 4e, Kate 3e et donc Jokic et Shai.
Si on nous avait dit Cade Cunningham serait aussi sérieux dans la course au MVP, je ne sais pas si on l'aurait cru, mais clairement il peut l'être cette saison. C'est pas choquant
Toi, tu
quoi.
penses qu'il peut l'être, ouais?
Je pense que si Shai a le nombre de matchs, il l'aura.
D'accord, tu restes un peu sur Shai. Tu sais que la
Mais
dynamique OKC, dynamique Détroit, ça se croise un peu là.
ouais. Non mais j'ai pas une certitude comme on pouvait l'avoir il y a encore 3 semaines.
Ça, et en plus, si on veut, entre guillemets, pousser la conversation pour qu'elle reste ouverte, le challenger numéro 1 de Shai va être Cade là sur la deuxième partie de saison, j'ai l'impression.
À part si vraiment Jokic ne manque aucun match, mais je pense pas que ce soit sa
Ou
priorité. Il sait qu'il est passé
que les
derrière.
Celtics fassent une série de victoires et que Brown fasse 2-3 matchs à 45 points, tu vois, des trucs
C'est
un peu.
ça.
Bah en fait. Un peu comme a fait Cade là hier au MSG. Vraiment impressionnant. Je vous invite à aller voir au moins un résumé. Il y a Blake Griffin qui a eu une formule tout à fait à propos sur Cade qui dit qu'en fait il transforme les avantages, c'est son super pouvoir, c'est de transformer les avantages en points. Et Bastien me disait aussi, Bastien qui a eu la chance d'être All-Star Game avec.
Et là, qui a eu la chance d'être à tes côtés sur le canapé aussi.
Merci Robin. Non mais qui disait Cade c'est une vraie marmule. Les gens ne se rendent pas forcément compte quand tu le vois en vrai, mais qu'il
Le
est
terme marmule.
d'une puissance. Il est grand, mais pas seulement, et qu'il a un côté joueur de foot américain. Voilà. Et il est un peu inarrêtable physiquement, et en plus, il a le toucher, l'intelligence de jeu et tout. Ça en fait un cocktail assez MVP-esque,
Ouais, plus de 2
vraiment.
mètres. Enfin, presque 2 mètres.
Ah oui, il
Ouais.
doit taper ses 2 mètres, et il doit bien faire ses 105 kilos de muscles, tu vois. Et puis, il n'a pas peur, et il a la cadence. Un peu comme Doncic, mais encore plus, je trouve, encore plus inarrêtable, j'ai l'impression, physiquement, encore plus costaud. Voilà, chercher. Il y a quelque chose de... C'est que le début. En MVP ou non, c'est ça que je veux dire. C'est que le début de la domination de Cade. Et franchement, j'ai hâte de voir en playoff.
Ouais,
À la fois parce
c'est très.
que, et on le disait hier, c'est la limite. Je trouve que c'est très Cade, du coup, les Pistons. Là, hier, il prend 34 shoots.
Ouais.
Je fais le calcul, le reste du 5 majeur en prend 38.
C'est ballon.
Et lui au
C'était son
centrique,
match.
on est dans les trucs à la Harden Rockets, Doncic des Mavs,
Il
etc.
en met 17 hein, sur les 34, c'est ça?
Ouais, je crois qu'il a 50%, ouais, c'est 17 sur 34. Donc voilà.
Très bien, très bien, très bien. Pour conclure ces news, on va
Ouais.
partir à un autre grand joueur, mais surtout
Oui.
un grand coéquipier, me
Oui.
semble-til.
C'est le trophée du meilleur coéquipier de la semaine. Bravo,
Bravo.
monsieur Kevin Durant.
Exceptionnel. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas vu passer? On va peut-être quand même expliquer. Des années après sa première affaire de burner account, on a un petit revival, une saison 2 d'un nouveau compte qui est sorti de DM sur
Ouais.
Twitter, où il a pas mal de fois bâché ses coéquipiers anciens et actuels. Je vous ai écrit un petit cocktail ici. En parlant de la saison des Rockets et de ses coéquipiers actuels, il a quand même dit que même Ben Simmons me manque, au moins il me passait la balle.
C'est drôle. Pardon, moi je trouve ça drôle, je vais être un peu en décalé sur cette chronique, je trouve ça marrant.
Ouais. Non, mais c'est marrant. Jabari Smith, son coéquipier actuel, je sais pas comment on traduit Loki retarded, mais un peu. Enfin,
il est teubé quoi.
Oui, il est teubé, voilà.
Ouais, c'était politiquement correct.
Il a écrit je vais perdre le ballon avec cette équipe de merde, je m'en fous, votre joueur vedette, ouais, Alperen Sengun, ne sait ni tirer ni défendre, c'est un problème bien plus grave que mes pertes de balles.
Il a pas tout à fait tort. Mais bon, faut pas faire ça, faut pas encourager ça, d'où le trophée de meilleur coéquipier, c'est parce vrai. Que franchement, t'es... Mais là, c'est hilarant, il y a des mecs qui montrent maintenant les images de l'entraînement, parce qu'il a dit quelque chose à Jabari Smith, et oui. Tu te dis, mais l'ambiance est... surtout, c'est... d'ailleurs, tu m'as dit que ça... KD a pas démenti.
Non.
Et ça a l'air quand même... Parce que je t'avoue qu'au début, quand j'ai vu sortir ça, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est un mec.
C'est trop gros.
C'est trop gros. C'est un mec qui a étudié, entre guillemets, la syntaxe de KD sur les réseaux, qui a pris la photo de profil qui va bien, et qui a fait un vrai faux compte de KD pour se marrer, faire des vues, la monétisation sur Twitter, enfin,
oui,
X, là, voilà. Ce réseau qui devient chaque jour un peu plus une safe space pour,
bien sûr.
Pour tout le monde.
En tout cas, pour KD, visiblement.
Ouais, et ça a l'air quand même. Bah, je sais pas, le fait qu'il n'ait pas démenti, le petit malaise quand même que tu ressens un petit peu.
Il a été trop bon en tout cas. Enfin, si c'était une imitation, c'était trop bien fait. Enfin, et
ouais.
Moi, j'y crois dur comme fer. Je vais pas toutes les faire, mais notamment Devin Booker et Frank Vogel, il les a comparés à des très célèbres dictateurs.
Ouais,
je voudrais voir lesquels, je sais pas si on a le droit de les citer.
Ouais,
mais les deux auxquels vous pensez, quoi, globalement.
Ouais.
Enfin, Kevin Durant,
il a jeté tout le monde sous le bus. Alors,
c'est
rien
ça.
À faire.
Et non, bah, donc il mérite très très fort ce trophée.
Ouais.
Et il y a un autre petit génie de la communauté. On va peut-être vous le montrer, qui a carrément créé un site internet de KD
ouais.
Files. Où, parce que on vous a parlé de ses coéquipiers, mais c'est ça, il a dit il a des bonnes choses sur Drake, d'où le praise ici
oui.
Et dans les critiques sur
Kendrick
Lamar.
Ah, il
Kendrick
fait ça bien,
Lamar,
tu vois, des petites étiquettes, c'est nouveau.
Bien sûr, ouais,
c'est malin, il y a les thèmes. Ouais.
Ouais, c'est très bien fait. En tout cas, il a pris du temps pour créer un site internet comme ça, si vous voulez aller voir tout ce qui a été dit.
Ouais.
C'est magnifique. Bravo Kevin Durant. Je pense qu'on peut le féliciter plus que jamais, quoi.
Et ça aurait pu être, j'en profite pour faire la transition. Oups.
Ouais.
Mon Robin, puisque ça aurait pu être, c'est le gros débat de notre semaine, comme vous le voyez, c'est le top 3 de la mi-saison. On aurait, c'est ce qu'on a particulièrement retenu.
Ce qui nous a marqué, ouais, jusque là cette saison.
Et là, on vous a montré les KD Files, parce que franchement, moi, j'hésitais à le mettre. Mais c'était un peu l'actu chaude, et je me suis dit, on va en parler en trophée, c'est plus marrant comme ça. Mais dans l'observation, par exemple, j'aurais pu parler des Rockets, parce que je trouve que j'étais très excité en début de saison, et là, honnêtement, je vais même plus trop les regarder.
Non, le souffle retombe.
Voilà. Mais c'est pas dans mon top 3.
Non, oui, pour vous expliquer pourquoi on fait ça cette semaine, comme on l'a dit, c'était une semaine un peu morte, il n'y a pas eu de match à Paris hier soir.
Oui,
ça
oui.
A repris. Maintenant, c'était vraiment le break et on s'est dit que ouais, c'était le bon moment pour faire un petit point, parler des sujets desquels on avait envie de parler
mm-hmm.
et le faire d'une manière un petit peu fun. Vous avez compris, on aime bien reprendre la tablette ces derniers temps.
C'est
et
vrai.
Du coup, on a chacun un petit top 3 sans des sujets larges, moi personnellement.
Oui, bah là...
on va pouvoir débattre rapidement.
Et puis on va pouvoir prendre un petit peu le temps d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y avait moins de news. Le All-Star Game, c'était pas forcément le... On en a déjà fait un gros débat, on n'avait pas envie forcément de refaire le gros débat sur le Starman, donc c'est vrai. Toi, tu commences 3-2-1, c'était juste pour savoir.
Ouais, je suis sur mon troisième, là.
Ton troisième.
J'ai commencé à écrire parce que c'est un peu long.
D'accord. Alors, moi, j'ai pris quelque chose de, on va dire, collectif, une équipe, quoi, en gros.
Okay.
Que j'ai mis dans mon top 3, parce que je pensais pas autant les regarder, et surtout pour ces raisons-là.
Eh ben, on va commencer avec toi, je pense que ce sera plus simple. Toi, c'est les Suns, et moi, j'ai écrit retour de la configuration 1-5. Je m'expliquerai après, je vais te laisser parler des
ouais,
Suns.
Parce que là, je comprends rien.
Bien sûr.
Les Suns, pourquoi Bah, c'est une vraie nouvelle équipe.
Ouais.
Après le scandaleux Big Three, on en revient à Durant, tu vois, Bill, Booker, qui a pas du tout marché, qui a
Frank
fini
Vogel.
Par... Voilà, Frank Vogel. Écoute, là, on a une équipe avec... C'est surtout le coaching qui m'intéresse de Georgia Note, avec un vrai nouveau coach, une nouvelle façon de jouer. Et tu vois, là, à mi-saison, même un peu plus que mi-saison, ils sont très performants en défense.
Mm-hmm.
Et c'est complètement... faut quand même s'en rendre compte. C'est Suns avec l'effectif. OK, il y a Grayson Allen, il y a quelques défenseurs ou des mecs hargneux, mais au niveau de la défense du cercle, c'est quand même pas normal qu'ils soient aussi performants.
Non.
Et du coup, le
comment ils arrivent à faire ça, comment ils jouent, pourquoi ils sont aussi bons en défense, pourquoi ça tourne. Ils ont fait des matchs en plus, je trouve, d'un niveau de spectacle, par l'intensité qu'ils mettent, le fait qu'ils aillent repousser comme ça des équipes vraiment plus fortes qu'eux, qui les emmerdent vraiment, etc. Je me suis retrouvé à non seulement regarder les Suns, mais aussi re-regarder, essayer de retrouver des choses d'analyse, etc. Donc voilà, les Suns en 3 pour moi,
pourquoi
dans les choses dans le radar.
Pourquoi Dion Brooks est devenu Paul George en attaque aussi?
Ouais, c'est vrai que...
On peut en parler de... Enfin, parce que Jordan Knott était connu comme un grand coach offensif, notamment du côté de Cleveland, ouais. Et on le voit cette année, il y a une fluidité dans l'attaque de Phoenix aussi. T'as parlé de la défense, mais
ouais,
si
puis
ça marche, c'est qu'il y a les deux côtés, quoi.
La façon aussi, ses choix de rotation, le fait de vraiment miser sur les points forts des joueurs, dans l'utilisation par exemple des Goodwin, des Royce O'Neal, d'Iguodaro, je trouve que c'est vraiment très intelligent, les Suns, très dynamique aussi en termes de coaching et tout. C'est vraiment assez tactiquement, c'est je pense que beaucoup de coachs s'inspirent même d'équipes plus supérieures, mais regarde ce que fait Hot avec les Suns. Parce qu'il y a des très bonnes choses à prendre. J'aurais pu, pour finir, Robin, parler des Celtics,
ouais.
Qui sont aussi très étonnants.
Clairement, on s'y attendait pas.
Mais c'est pas autant une nouvelle tactique. C'est pas autant une nouvelle équipe tactiquement que les Suns, puisque finalement, pour les avoir bien regardés aussi, ça reste du Mazzulla Ball avec un spacing optimal, avec vraiment beaucoup de shooting, l'accumulation de prendre des 3 points, de faire craquer un peu la défense là-dessus, et finalement, Jalen Brown, Derrick White, tout ça, on connaît.
Ouais. Mais moi, je vais en parler un peu des Celtics, parce que c'est les seuls qui rentrent pas dans ma configuration. J'aurais pu l'appeler un peu mort des ailiers, d'une certaine manière, parce que je trouve qu'on sort de 10-15 ans de NBA, où on parlait de LeBron, de Kevin Durant, de Kawhi Leonard, de Paul George.
It's a wings league.
Exactement. Et désormais, quand tu regardes le top 3 de chaque conférence, les deux joueurs les plus importants cette saison, sachant que Jalen Williams, c'était pas trop là, du Thunder, Shai et Chet,
ouais.
Des Spurs, Fox et Wemby,
ouais.
C'est qui les troisièmes avec les Nuggets, Jamal Murray... Ouais.
Donc en gros, porteur de balle intérieur, quoi.
C'est ça. Et à l'est, c'est pareil, sauf les Celtics justement.
Kate Duren.
Exact. Kate Duren et les troisièmes à l'est, les Knicks. Bon, tu peux discuter vu la saison de Karl Anthony Towns, mais je pense que ça reste les deux stars avec Jalen Brunson.
On peut ajouter les Cavs parce que finalement Mitchell, Allen Mobley ou Harden maintenant, c'est quand même aussi du porteur de balle intérieur.
Même les Wolves qui sont dans le jeu à l'ouest cette saison, Ant il joue plutôt porteur de balle.
Ouais.
Et en fait, ça m'a fait me replonger dans quelque chose où en fait j'ai été voir toutes les drafts depuis celle de Jason Tatum en 2017.
D'accord, donc les 10 dernières quasiment.
C'est ça. Il y a celle de cette année où Cooper Flagg, Kurt Knuppel peuvent jouer sur les ailes, où pour l'instant ça a
l'air
d'être.
C'est des vrais postes 3-4.
Ça a l'air d'être les joueurs dominants.
Enfin, Cooper Flagg et Knuppel, c'est plus un 2-3. Mais c'est ni un grand intérieur, comme tu dis, ni un porteur de balle pur. Ouais.
C'est ça. Mais au milieu de ça, on a 8 ans où les meilleurs ailiers, il y en a des bons. Il y a du Jalen Williams, du Scotty Barnes, du Jalen Johnson.
Ouais.
Mais si on parle de l'élite sur une poste, même Franz Wagner. Mais de l'élite sur un poste, il y a vraiment une vraie disparition, je trouve, des postes 3, surtout dans les équipes dominantes. Ces dernières saisons, après pendant plus de 15 ans au final, avoir beaucoup fait de débats autour de LeBron, de KD, etc. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé les classements et je me suis dit, on est un peu de retour au basket qu'on connaissait un petit peu à l'ancienne. On disait qu'il fallait un bon meneur de jeu, un bon pivot, un peu comme dans le foot, un bon gardien de but, un bon attaquant. Et que ça se reconstruit un peu comme ça, avec les ailiers défensifs un peu rugueux au milieu. Et que c'est peut-être la construction des équipes qui gagnent en ce moment en NBA. Ça m'a un peu marqué.
Très intéressant, très bonne observation, Robin. Je complète avec... Il y a une disparition quasiment totale maintenant du poste 4 en tant que tel. Et on a ce que prophétisait un peu Brad Stevens quand il était encore coach. On a effectivement des rôles, et il y en a 3 en fait, globalement. Tu as la balle entre les mains, porteur de balle. Tu es ailier entre guillemets dans les corners et il n'y a plus ce poste 4 un peu hybride, mais tu es vraiment ailier dans les corners et tu as l'intérieur. On parlait du retour d'équipe à 2 bigs l'an dernier, c'est un peu une tendance cette année et c'est pas seulement parce que Steven Adams s'est blessé, mais on le voit moins. Je trouve qu'on le voit un peu moins.
Les Cavs un petit peu, mais comme il marchait pas en début de saison, ça a remis de l'interrogation plus qu'autre chose.
C'est moins la tendance cette année et c'est vrai que par contre, la systématisation d'avoir. Comment dire. Toute équipe, là, en ce moment, t'as l'impression qu'elle commence par ton porteur de balle et ton intérieur.
Ouais.
C'est ça. Ton identité d'équipe avant tout et la qualité de ces deux joueurs-là dicte un peu le reste.
Exactement. J'ai l'impression que c'est ce qui est recherché par les management en ce moment. Brad Stevens avait un peu d'avance. Quelle énorme surprise. Et bizarrement, c'est son équipe qui répond pas à ses critères en plus.
C'est vrai que on va voir si Tatum revient, mais les Celtics sont quand même encore organisés autour de postes déliés.
C'est ça. On va passer aux deux.
Ouais.
Ça va être beaucoup plus efficace pour moi. Hop.
Je fais dans le classique, moi je suis pas très surprenant, je t'avoue. Mais
Oh là là, moi j'ai très mal écrit, comme je vous le dis, depuis 3 semaines. C'est pas mon fort.
J'ai l'impression que c'est illisible ce que j'ai griffonné.
Ah bah si, j'arrive à le lire. Oui, c'est classique, mais c'est bien. Hein. Moi je suis parti un peu plus loin. Toi t'as écrit Cooper Flag.
Ouais, il faudrait que j'appuie plus fort sur mon stylo.
Moi j'ai écrit beaucoup de management nul.
Explique-toi, Robin.
Bah, je suis assez impressionné. Je trouve que ça part un peu peut-être du trade de Doncic, mais qu'on a eu beaucoup de décisions ces derniers...
C'est le fan des Bulls qui vous parle.
Oui, notamment. Mais ces derniers mois en NBA où tous les fans étaient totalement d'accord pour dire que c'était nul, et il s'avère que tous les fans avaient raison. Je pense aussi à la décision de Joe Dumars de transférer son premier pick de draft. Et pareil, en fait, moi je suis parti du classement et je me suis dit qu'il y avait en ce moment beaucoup de monde qui trouvait que leur management... faisait dans l'amateurisme. C'était les Bulls, les Bucks, les Warriors dernièrement, les Grizzlies où ça peut se débattre même s'ils récupèrent des picks de draft, les Pels, les Kings, le Kings, le transfert de De'Aaron Fox, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et
on
en
a
fait,
quoi là, 15, 17 défaites, 15,
c'est catastrophique. Ouais. Et dans les un peu plus débattables, j'ai mis quand même du Clippers, Lakers, Mavs, ils viennent de reprendre le bout. La draft des Nets, où au final on voit qu'ils ont des bons joueurs, mais tout le monde s'était étonné de la draft de Ben Saraf après Nolan Traoré et Igor Demine en termes d'encore un meneur de jeu. C'est en train de se traduire, même si c'est encore tôt pour le dire. Mais du coup, quand on prend ces 10 équipes-là, comme je dis, Clippers, Lakers, Mavs, Nets, c'est un peu plus relatif, on va dire. Mais ça fait quand même un tiers de la ligue où on a des décisions ces deux dernières années qui ont fait faire les gros yeux à beaucoup de monde. Et on se dit, bah, en fait, on sait qui sont les pigeons de la ligue. Là, ces derniers temps, les trades ratés. Tu vas tout le temps voir les Pels, tu vas tout le temps voir les Kings, tu vas tout le temps voir les Bulls. Et de se dire, évidemment, on a toujours eu des décisions nulles en NBA, mais en ce moment, il y a des choses, des sujets marquants qui reviennent, le trade de Doncic, le trade des Pels, etc. Et qui font penser qu'il y a quand même beaucoup d'amateurisme presque dans les bilans des managers en NBA. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à reconstruire ? J'ai l'impression qu'on a une génération de très bons coachs dans l'ensemble, et que là, il y a des general managers où... Ouais. Personne ne comprend ce qu'ils font et il y en a quand même beaucoup dans la ligue.
Les Hornets, par exemple, en changeant de general management et en rajeunissant le truc, montrent qu'effectivement, même pour les équipes un peu engluées dans la médiocrité, c'est possible en fait avec des bons moves. Et c'est pas inutile. Là où c'est très intéressant, il y a quelque chose cette saison d'encore d'assez fort, c'est que tu as cette impression de ligue un peu à deux vitesses.
Ouais.
J'aime bien dire Champions League, Europa League.
Clairement.
Et que c'est un peu, on fait la blague ventre mou, mais pas seulement, tu vois, et que c'est très lié au management en fait finalement. Avant on pensait que c'était la taille des marchés, mais tu vois, les Bulls, c'est un des plus gros marchés, ils sont, c'est Oklahoma, c'est un peu une ville, c'est un petit marché par exemple.
Indiana,
ça les empêche
pas
moi
ce qu'ils font.
Et c'est vrai que si on doit, là où tu as raison je crois, si on prend le classement. Alors, la qualité des joueurs, bien sûr, mais ça découle du management. Si on prend le classement et qu'on essaie de se dire, OK, c'est quoi le vrai critère si on divise en deux, tu vois. Et en gros, ça, c'est l'élite, ça joue bien, ça joue pour quelque chose. Et ça, c'est les tocards. C'est une lapalissade, ce que je dis, c'est évidemment le management.
C'est
mais tout ça, ça se voit fort.
Exactement.
Ça se voit très fort. Ouais, j'avoue.
Et toi, t'as été sur Cooper Flag.
Je l'ai réécrit en essayant d'écrire un peu mieux que vous le voyez. Ouais, Cooper Flag. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer j'ai
coup de cœur général.
Dès le début, coup de cœur général. Un peu comme les joueurs qu'on annonce générationnels, tu te mets à regarder au début, et je t'avoue qu'entre son style, son jeu, tout ça et tout, j'étais conquis assez rapidement. Là j'en suis à me demander, et comme tout le monde je crois, mais c'est qui ce jeune en fait,
il est incroyable.
C'est l'autre, il fait du LeBron là.
Bah, c'est un kiff absolu, clairement. Bah, on parlait des ailiers, lui il va... J'ai profité de mettre la take maintenant parce que dans 3 ans elle tient plus avec ce type là.
Il est déjà en train de la regarder dans les yeux, la take, et de dire attends, viens là Robin avec ton histoire d'ailier là.
Clairement.
Je vais être le meilleur joueur de la ligue d'ici 3 ans, tu vas me laisser tranquille. Il y a quelque chose de... Alors en plus la dramaturgie, parce que ça fait suite au trade de Lucas, au fait que miraculeusement Dallas est le premier choix, que ça tombe sur lui, enfin voilà. Mais il y a quelque chose d'absolument fascinant, à la fois dans son QI basket pour un joueur aussi jeune, à la fois dans le côté expérimental que Jason Kidd assume, puisqu'il a commencé un peu meneur, enfin voilà. Puis l'effectif de Dallas permet ça, parce qu'il y a finalement un peu un amas de joueurs un peu trop similaires, notamment à l'aile, donc finalement décalé Cooper Flag à la main.
Kyrie qui revient pas de la saison.
L'absence de Kyrie. Et je parlais de son intelligence de jeu, mais il y a aussi tout simplement son style. Là, il n'y a pas longtemps, est sorti une mixtape, je crois que c'est Cooper Rising, enfin je sais pas, sur ses dunks de 10 minutes. Il y a déjà un paquet de...
Il est un bon dunker. Il est très très sale. Hein.
C'est un bon dunker, il a pas peur, il est spectaculaire et intelligent. Il a l'air d'avoir la tête posée sur les épaules. Il y a eu un petit entretien avec Dirk Nowitzki et tout, assez classe.
Ouais.
qui est sur Prime, je crois, parce que Dirk est sur Prime, etc. Donc voilà, Cooper Flagg, moi en deux, parce que bah, comment faire autrement. J'avais quand même quelques petites mentions. Tu voulais réagir?
Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire que justement, moi, Cooper Flagg, j'y ai pensé.
Ouais.
Et je pense que si j'étais parti sur un concept simple, j'aurais eu le même que toi. Mais
genre le Gugus que tu regardes le plus, qui t'intrigue le plus.
Mais ouais, ça fait des semaines que tu m'en parles et je me doutais qu'il serait peut-être dans ta liste. C'est même si on ne s'est pas spoilé. Mais
non,
vas-y,
mais
c'est pour tes mentions.
Quelques petites mentions de joueurs que j'ai regardé peut-être plus que. Enfin, tu vois, que j'ai pas mal regardé.
Ouais, bien sûr.
Bah, je vais te faire plaisir, mais moi, Matas Buzelis, parce que je trouve que c'est un peu la version Z de Cooper Flagg.
Ouais, en plus maigre et moins fort.
Ouais.
Mais
il y a un truc quand même, délié complet, bon dunker, et j'aime bien sa personnalité.
J'adore Matas.
Il est franchement, par contre, j'adore sa personnalité. Tout ce qui sort un peu de contenu, notamment les Bulls mis un peu là-dessus, l'interview souvent, il est drôle, il est assez spontané. Je sais pas, il a un truc. Voilà, Jalen Johnson, qui devient chaque fois que je le vois jouer de plus en plus fascinant. Vraiment l'avion de chasse, mais tout en ayant du flair, etc. Scotty Barnes.
Ouais,
j'aime beaucoup voir Scotty Barnes, moi.
Tous les alliés que j'ai cités tout à l'heure, finalement.
Ouais, c'est vrai. Non, bah après, les Sixers, et particulièrement pour un petit coup de cœur, Vijay Chkoumbe, et puis même, tu vois, de voir Embiid aller mieux, tout ça et tout, je me retrouve à. Et c'est même un peu surprenant, à kiffer un peu ces Sixers.
Maxi, c'est un kiff.
Ouais.
Paul George, quand il se faisait pas suspendre, j'ai l'impression que tout le monde remontait un petit peu dans le bateau, enfin, était content qu'il soit performant, en tout cas.
Ouais. On parlait de l'absence des cadres d'Orlando plutôt dans les news, ça a permis de voir d'autres joueurs que je me retrouve a pas mal apprécié, comme Anthony Black.
Mais Anthony Black, c'est top 3 de mes coups de cœur de la saison. Facile.
On est d'accord.
Ouais, incroyable.
J'aime bien Tristan Da Silva aussi.
Ouais.
Franchement, je sais pas, j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien comment il joue, j'aime bien son sang-froid pour un joueur de cet âge et tout. J'aime beaucoup Tristan Da Silva.
Noah Penda, pas parce qu'il est français,
ouais,
mais
non,
je le trouve intriguant comme rookie.
Le corps global d'Orlando est assez intriguant, assez cool.
Je
voulais
partir du corps parler du corps de Noah Penda. Ça s'élargissait, je me disais bon.
Alors bon, ça c'est très hipster, mais le backcourt des rookies, dont Nolan Traoré et Igor Demin des Nets, bah en fait, je vais quand même toujours un peu regarder d'un coin de l'œil. Peut-être pas me taper les matchs des Nets en entier et tout, mais parce que l'association des deux me parle beaucoup, il y a quelque chose. Et Nolan est en train de faire son trou là. Il a vraiment fait des matchs où on voit le potentiel.
Oui, cette nuit c'était plus compliqué, mais vous en parlez la semaine dernière, c'était des 18.7 passes sur les 4-5 matchs avant ça.
C'est normal que ce soit irrégulier. Donc voilà, globalement, mais en quelques vracs, quelques noms, j'en oublie plein, hein, mais voilà.
J'ai pas pensé à des mentions, mais franchement, elles rejoignent pas mal les tiennes, donc on est très alignés.
Okay.
Et c'est des sujets qu'on va continuer à suivre sur la suite de la saison.
Tant mieux, Robin.
Et mon numéro 1, moi je l'adore, je te le dis. Hop. Pareil, un petit peu long à écrire.
Attends.
Toi, ça efface carrément.
Bah ouais, parce qu'en fait, ça appuie pas assez.
Ok, moi je suis prêt. J'espère que j'ai pas fait une faute d'orthographe. Je crois pas. Oui, bon, ils vont comprendre.
Oui. Alors toi, t'as quoi?
Moi, oula, moi j'ai la conférence Ouest pas si terrifiante.
Ah oui, ok.
Et
non,
toi, t'as Wemby.
Je n'ai pas été chercher compliqué, mais je vais m'expliquer.
Moi, je te laisse commencer, du coup. Ce sera plus.
Ouais, Wemby, on peut peut-être tout de suite montrer ça.
Bien sûr, qu'on joue le titre. Ça date de cette nuit.
Et son argumentaire, c'est que globalement, les équipes qui jouent le titre sont toujours
top 2 de leur conférence.
Top 2 de leur conf, ce qui est le cas des Spurs, donc il se base un peu sur. Mais il a pas tort. Wemby, pourquoi? Bon, les Spurs de Wemby, de manière générale, mais au début, je pensais pas. Alors, en plus, c'est mon côté peut-être d'être un contre-courant, tout le monde va regarder Wemby, tout ça et tout, je vais regarder un peu d'autres choses, mais quand même, regardons ces Spurs. Et puis, à chaque match, en dehors de Wemby, il y a. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a Fox, parce qu'il a quasiment pas joué l'an dernier, comment il s'intègre? Ah putain, Stéphane Cassel, c'est en train de devenir le nouveau Jimmy Butler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dylan Harper, en fait, il a beaucoup trop de talent.
Incroyable.
Mais en fait, Keldon Johnson, il est parfait en sixième homme.
Il peut être le sixième homme de l'année.
Et en fait, tactiquement.
Luke Cornett.
Voilà, Luke Cornett, l'apport d'Harrison Barnes, qui en début de saison est une sorte de Glenn Rice, là, il mettait tous ses trois points. Au milieu de tout ça, des petits détails, mais avoir des nouvelles aussi de la santé de Pop, mais ça rajoute à pourquoi sur l'espoir. Les Jackals qui se développent, qui intègrent le clap là, à l'islandaise, dans la culture NBA.
C'est très dur de passer à côté, et je pense que c'est pas seulement lié au fait qu'on soit français, quoi.
Tout converge vers les Spurs cette saison. Je trouve que c'est quand même l'histoire de la saison. Détroit fait une très bonne saison et on verra plus tard. J'avoue que j'ai pensé aussi, mais on parlait de Jack Cade là plus tôt. Mais tout converge cette année vers les Spurs. Et Wemby, au-dessus de tout ça, c'est une sorte de baobab sur le gâteau. Mmh. Tu vois, c'est quelque chose de...
Et baobab, c'est le terme, ouais.
Il fait accélérer... Tu as l'impression, comme rarement devant les Spurs de Wemby, de voir l'histoire, de voir quelque chose d'historique s'écrire devant toi. Mmh. On sait déjà tous qu'on reviendra sur cette ère Wemby, évidemment. On ne sait pas encore en quel terme.
Jusqu'où ça va monter.
Mais voilà, tu as l'impression que le Space Mountain est en marche et que c'est vraiment Buzz l'éclair, direction l'infini et au-delà, et que ça peut... Il y a quelque chose de... Le temps s'accélère. C'est-à-dire que je ne pensais pas au bout de... Ils sont tellement fascinants d'être deuxième, d'être peut-être candidat à, dès cette année, non seulement faire les playoffs, mais ils foutent le bordel. Mmh. Peut-être même couper des têtes. Peut-être même détrôner certaines personnes, tu vois, enfin, etc.
Je vais utiliser ce terme pour la première fois, mais je vais te mettre on the spot. Mmh. Juste avant, quand tu parlais de Cooper Flagg, tu disais dans 3-4 ans, peut-être meilleur joueur de la ligue.
Oui, oui.
Est-ce que tu penses que... Le duel, ce sera vraiment entre ces deux mecs. Est-ce que tu penses que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est un peu tous Wemby, encore au-dessus de Cooper Flagg, peut-être d'une certaine manière. Est-ce que tu penses qu'il peut le challenger? C'est vraiment
Flagg,
de la science-fiction.
Il a fait 6 mois de NBA. Hein.
C'est, ça rend de la science-fiction. C'est pour ça que.
Et
que
je rajoute
je te lance,
Ant,
mais...
moi, dans le mix.
Ouais.
Ant, okay, il est encore quand même assez jeune pour stabiliser encore son jeu. Mm. Et je trouve qu'on dort un peu sur le niveau d'Anthony Edwards individuel.
Bah, déjà, deux finales de conférence dans cette conférence Ouest, dont j'ai reparlé, mais.
Cade, c'est un poil différent. Je ne sais pas s'il a ce côté vraiment, vraiment superstar au point d'être à un moment dans la conversation, même si c'est temporaire, mais de meilleur joueur de la ligue. Mm. Léger doute, mais Ant, j'ai moins de doutes là-dessus. Parce qu'il a le charisme aussi. Voilà.
C'est ça. Il a un côté moins générationnel sur le papier, Cade, mais comme on le dit, il ne fait que monter en puissance.
Mais il va être top 5 de candidat MVP, ça connaît plusieurs années. Il va peut-être en avoir un, ça se trouve, dès cette année, on en a parlé. Mais ouais, Wemby et les Spurs, tu sais. Je pensais pas être aussi fasciné tout simplement par des micro-détails de comment il demande la balle, ou
ouais,
comment il domine, pourquoi, qu'est-ce qu'il frustre, qu'est-ce qui marche sur lui en défense. On a vu un match notamment très intéressant où Houston a cherché à lui rentrer dans l'art. Mm. Il a trouvé des solutions. Et son intelligence de jeu, sa personnalité aussi, son intelligence tout court du coup, sa façon de se comporter médiatiquement. On en a parlé déjà dans l'émission sur certains sujets un peu touchy, des choses même assez graves. Tout ça fait que c'est intellectuellement très stimulant, très intéressant à voir. Vraiment. Et c'est incontestablement mon histoire de la saison, quoi.
Et ce qui est fou, c'est que les gens qui suivent pas le basket, ils regardent ces highlights et ils voient les paniers qui tournent partout et ils peuvent que être impressionnés. Et que quand t'es un geek de basket, je trouve que souvent, c'est des espèces de paniers à mi-distance en prenant des appuis compliqués qui te marquent et qui te font dire bah, celui-là, il va pas faire 10 000 likes sur Instagram. Mais c'est un panier qui montre que le gars va devenir... inarrêtable encore plus, quoi.
Avant que tu nous expliques ton numéro 1, j'ai un dernier truc à dire sur Wemby, je me permets, mais j'ai l'impression d'assister à une révolution technologique.
Okay.
Comme quand Internet est arrivé, ou quand Wemby, pour moi, représente, où tu sais, tu passes à une nouvelle génération de consoles, où tu as une nouvelle télé, où au début, t'as 6 mois où c'est tellement net, tu sais, l'arrivée de la 4K, c'est tellement net, c'est tellement que tu as besoin, tu n'arrives pas à t'y faire tout de suite, tu as besoin de rafraîchir ton regard ou de recalibrer le truc.
Tu vas voir ton opticien vérifier si tu as besoin.
Mais moi, il y a un moment où, tu sais, l'image, pour moi, était devenue presque plus nette que la réalité sur la qualité des films. Du bruit, tu te rappelles. Et ça me perturbait presque.
Ok.
Je sais pas si tu vois de quoi je parle.
Ou par exemple,
tu
3D, etc.,
ou quand tu as une vraie nouvelle console et que tu as un vrai gap, la Nintendo 64 qui amène la 3D, la PlayStation. Et... je trouve que Wemby représente ça parce que quand je le regarde, j'ai encore du mal. J'ai l'impression qu'il y a des fois, qu'il sort de l'écran, qu'il sort du cadre.
C'est une Kinex, quoi.
Ouais, il y a un côté presque glitch dans la matrice. Et d'Avatar, on disait comme ça. Et donc, de vraies révolutions technologiques, pas seulement du jeu, de technologique, de son gabarit, mais aussi ce qui est possible, tout simplement. Ce qui nous est offert en termes de sur un terrain de basket visuellement, moi je le compare à une vraie révolution technologique parce que finalement on a vraiment jamais vu ça et il oblige tout le monde à suivre. On l'a vu au All-Star Game par exemple dans sa montée, mais même il va tirer toute la NBA comme ça dans une nouvelle ère.
C'est ça.
Comme quand tu passes quand t'as des vrais gaps de la PlayStation 4 à la PlayStation 5 et que tu le vois parce que t'as changé de génération de console.
Et t'as parlé d'Avatar, quel plaisir que ce monstre soit bleu quand même. Hâte de le voir cet été. Avec l'équipe de France, il a déjà dit que c'était un de ses objectifs. Et surtout, avant ça, les playoffs. On l'a répété déjà plusieurs fois, mais je suis d'accord avec toi. C'est le numéro 1 de presque tous les Français. Et c'est assez logique. Moi, j'ai écrit que la conférence Ouest n'était pas si terrifiante. Pourquoi ? Je t'invite à te replonger au moment des 30 prévus en 30 jours, et c'est pas possible avec Sébastien parce qu'on le faisait absolument tous. Moi, le premier, je disais le 13e de la conférence Ouest, il aura 35 victoires. On se disait, les Pels, ça va être compliqué, mais il faut que tout le monde soit en forme. Les Grizzlies, ça peut remonter si tout le monde est dans le bateau. Les Kings, on sait jamais, ça peut marcher, il y a quand même du talent. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont nulles. J'ai écrit qu'il y avait 12 équipes de l'Est, je crois, qui sont là en ce moment à plus de 23 victoires et seulement 10 de l'Est. Et même quand on regarde le play-in à l'Ouest, les Warriors, décevants. Les Suns, c'est une belle surprise, mais personne ne les attendait à ce niveau, c'est quand même pour une raison. Les Clippers, ils ont fait un début de saison catastrophique, ils se retrouvent à nouveau dans le mix, etc. Et même dans le top 6, les Lakers, la plupart des gens les trouvent décevants. Les Rockets, pareil.
Les Spurs,
ils sont deuxièmes. C'est génial, mais on peut se demander en fait pourquoi les Nuggets, ils arrivent à rester troisième et dans la course alors qu'ils avaient une équipe de G-League pendant deux mois avec tous leurs titulaires à l'infirmerie. Et en fait, globalement, j'ai relevé d'autres stats que j'ai fait maison. Mm-hmm. Il y a eu 290 matchs cette saison entre une équipe de l'Ouest et une équipe de l'Est. 146-144 pour l'Ouest.
Ah, c'est équilibré.
C'est super équilibré. Quand tu regardes les bilans, par rapport aux dernières années, le 6e de l'Est et le 6e de l'Ouest, ils sont dans les mêmes bilans. Et en fait... Là, on a l'impression quand même que le Thunder et les Nuggets sont au-dessus de la mêlée et que le titre même devrait aller à une de ces deux équipes. C'est pas ce que je suis en train de nier. C'est juste que, personnellement, je me projetais dans une énorme bagarre à 13-14 équipes pour le play-in, très serrée, qui peut changer d'un jour à l'autre, etc. Là, on a un bloc de 6 qui est devant sans être complètement convaincant. Un bloc de 4 de play-in qui, limite, est au même niveau que le bloc de play-in à l'Est, ce qu'on n'aurait pas du tout pu dire au début de saison. Et 5 équipes qui sont presque encore plus nulles que les 5 dernières équipes à l'Est. Et du coup, je suis un peu surpris de cette conférence Ouest qu'on voyait arriver comme les... Je regarde Vikings en ce moment, on m'a promis Ragnar Lothbrok et au final, on a Rollo, quoi. Ouais. Très, très sympa, Rollo. Je suis à la saison 2, ça se trouve, Rollo, il devient génial, me spoilez pas dans les commentaires.
Ah, trop tard.
Ouais,
t'as appelé le spoil, là, mon gars.
Je suis foutu. Mais ouais.
En fait, c'est une double observation. L'Ouest n'est pas si terrifiant et l'Est, finalement, n'est pas si médiocre. Il y a un peu de ça dans ce que tu me dis.
Pas si médiocre, et pourtant à l'Est, j'ai pas envie de dire que toutes les équipes sont nulles cette saison, mais en fait, tu pourrais faire un constat assez similaire à l'Est. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de grosses équipes qu'on attendait et qu'il y a assez peu de preuves avant ces playoffs, et peut-être que ça resserre un peu le niveau général, mais tu vois, à l'Est, les Knicks, ils nous choquent pas, les Cavs non plus, les Raptors,
non,
ils
et
sont
la course,
hauts, mais...
Et comme il n'y a pas de vrais favoris à l'Est, enfin, comme c'est un peu complexe à l'Est de voir, ça vaut le coup de. Le top de l'Est, pardon, je m'exprime mal, le top de l'Est est quand même assez cool à voir parce que, en plus, Cleveland a ses nouvelles équipes, Détroit, on les attendait pas forcément aussi haut, les Knicks déçoivent un peu, mais sont pas vraiment en crise non plus, et ont quand même des matchs où tu te dis, ah, le talent est là.
En fait, ça aurait pu être, il n'y a pas tant d'équipes qui sont en place cette saison. Par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
Ouais.
Et en fait, ça relance peut-être l'intérêt pour les playoffs. Mais moi, je l'ai traduit comme ça parce que c'est sûr que, comme je disais, à l'Ouest, moi, j'attendais 13-14 équipes intéressantes. Bah, il y en a 4 et je mets les Wolves dedans. Je suis un peu dur, mais en vrai,
il y a
les Suns qui sont intéressants à leur échelle, etc. Mais...
Après, là-dessus, le tanking éhonté de 8 équipes quasiment là, change pas mal la donne cette saison aussi parce que. Et c'est pas pour remettre une couche sur les Kings, mais tu vois, les Kings, même en le voulant, je peux pas aller rentrer dans le top 3. Il y a rien, mais il y a... J'ai failli parler de ça, moi, en 1, du tanking, mais je me suis dit, vraiment, là, je tease, on en parlera plus tard, et on attend notamment de voir un peu ce que va décider la Ligue et tout pour faire un vrai beau dossier sur le tanking. Mais le fait qu'il y ait autant d'équipes qui, finalement, et à part pour leurs fans les plus vaillants,
bien sûr,
mais qu'il y ait autant d'équipes où il y a zéro intérêt... Ouais, la saison est plantée, quoi. Alors t'as des micro trucs, les Nets tank par exemple, mais je disais bon, ça n'empêche pas que le backcourt s'intéresse. Moi j'ai failli mettre 101, mais là où je te rejoins effectivement, c'est que même le sommet de l'Ouest, Denver a des blessés, on s'attendait à 5-6 grosses machines hyper bien huilées, et t'as raison, en fait Oklahoma était au-dessus en début de saison, finalement il y a une course à deux avec les Spurs un peu là, on voit Denver et les Lakers, c'est pas
tu
si
vois,
cool.
L'intonation que tu utilises prouve mon point, selon moi.
Ouais, tu as raison. T'avais pensé à d'autres choses, juste pour finir ce bilan un peu, quand t'as préparé tes trois trucs
J'aurais pu parler un peu plus des Celtics, que vraiment, moi c'est l'équipe que, en dehors des Spurs peut-être, mais que je préfère regarder jouer, qui m'a le plus intéressé. Et même l'avenir proche, là, le retour de Tatum et pas mal l'intégration de Nikola Vucevic. Les Wolves aussi, la montée en puissance des Wolves que je vais beaucoup surveiller, mais c'est pas des trucs qui m'intéressaient pour ce top 3, mais là, dans la fin de saison, c'est un peu ces équipes que je vais regarder, okay. Avec évidemment mon chouchou Ayo, mais même plein d'autres raisons où les Wolves, j'ai l'impression que justement, ils peuvent profiter d'un Ouest qui n'est pas si fort que ça pour, en fait, troisième finale de conférence de suite, je ne serais pas choqué.
D'accord.
Donc, moi, c'est ça que j'ai un peu surveillé. Ça ne répond pas complètement à ta question, mais...
Très bien. Si, ça répond à ma question.
Et l'autre chose que je vais évidemment surveiller, c'est la fin de saison de nos amis, les Frenchies, la météo des Frenchies en NBA. Elle est un peu spéciale celle-là. On se dit.
Il y a eu qu'un match hier, finalement.
On se dit, ça va jouer sur un soir. Mais au final, ça a suffi à faire une sélection. Et la première, on est très heureux de la faire.
Maxime, plein soleil. Bah là, il a la voie est dégagée.
Ouais.
Puisque donc Sabonis ne jouera plus. Et en plus, il y a une absence. Alors, j'ai pu, je crois, 3-4 semaines annoncées de.
Caldwell.
Maxime, hier, meilleur scoreur, je crois, des.
17 points et 14 rebonds en tout cas.
Ouais. D'ailleurs, avec un panier, tu l'as vu ?
Ouais, on l'a mis sur les réseaux de Trash Talk, n'hésitez pas à aller voir au-dessus du panier.
Mais voilà, donc là, il est safe, la trade deadline est passée, Sabonis est au repos, etc. Et tout. Il va pouvoir continuer à se développer. C'est le rayon de soleil des Kings et peut-être même le seul dans la saison. Franchement, elle est dure cette saison des Kings.
Ah oui.
J'en ai connu des galères, mais celle-là, elle est violente. Là, j'ai vérifié pendant l'émission tout à l'heure, je te parlais de, je sais plus si c'était 15 ou 17, c'est 15, mais je peux être sûr, quasiment sûr que la semaine prochaine, quand on se parle, on sera à 19.
Oui,
c'est
ben ça.
Ah, on y va tout droit là.
Oui, non, mais je comprends qu'elle soit dure, mais heureusement qu'il est là.
On va péter des records là en fin de saison. De médiocrité. Non, mais hier, on prend le record à 3 points de la vie d'Orlando Magic, c'est contre nous. Je pense que chaque équipe va battre une sorte de record où des mecs. Je pense qu'on va prendre d'ici la fin de saison un quadruple double d'un mec, un 18 sur 15 à 3 points, tellement. Enfin, genre, n'importe quoi.
Le canapé de trash talk qui est devenu un cabinet de psychothérapie.
Non, mais tu me demandais, c'est même pas si dur. Là, je parle personnellement.
Ouais.
Parce qu'en fait, je m'en fous. je m'en fous. Je veux juste attendre la draft. Je regarde des tankathons, des trucs, des profils. Du coup, je vais être hyper calé sur le haut de la draft.
Allez.
Je pense que les Kings, normalement, sont top 5.
Ah,
là,
oui, sans problème.
On va avoir le pire bilan. Donc, on est garanti. C'est ça, hein, quand t'as le pire bilan, t'es garanti top 5.
5
voilà.
C'est ça.
Mais les matchs en tant que tel, si, bah Maxime, super. Heureusement qu'il est là.
On est trop heureux de le voir. Et surtout, le 17-14, ça peut, comme tu l'as dit, comme il est seul, ça peut être la moyenne de fin de saison presque. Franchement.
Bah, le double. Ouais, peut-être.
Peut-être 14 rebonds, mais tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un pour qui ça va toujours plutôt bien, mais un petit peu moins ensoleillé quand même, on a Tidjane. Ouais. Parce qu'on en a pas parlé aussi depuis le début de l'émission. Mm-hmm. Et c'est un peu. Ça aussi, ça aurait pu être dans le bilan, c'est que Nuageux. C'est l'image de sa saison, c'est-à-dire que l'année dernière était quand même vraiment très critiquée. Et cette année, c'est devenu vraiment un joueur beaucoup plus respecté dans la lignée des Hornets qui vont mieux. Nuageux parce qu'il y a encore...
mieux autour de lui. Ouais.
Ouais. Nuageux parce qu'il y a encore des matchs où il joue pas du tout. Où Charles Lee lui fait pas confiance, mais il y en a d'autres où pour le coup, il sort du banc, il joue 25 minutes. Hier, il met 9 points. Moi, j'ai toujours kiffé depuis son arrivée. Genre, en fait, j'aime son énergie. On parlait pour Noah Penda. Moi, j'aime son corps, genre la largeur de ses épaules, etc. J'aime ses célébrations. Moi, ça me fait rire. Moi, j'aime les gamins en NBA. Tidjane, il a un peu ce côté-là. Donc, je souhaite vraiment de réussir. Et il a un côté. Ça lui arrive souvent de sur les 8 premières minutes d'un match, il a ses rebonds. Il a ce côté dur qui peut encore régulariser. J'ai envie de dire. Il a une bonne adresse à 3 points cette année. Il est au-dessus des 40%. En fait, il montre des outils qui peuvent faire de lui un joueur qui reste longtemps NBA et c'est ce que je lui souhaite parce que moi, je le kiffe.
Non, mais c'est un développement à long terme, mais on voit quand même déjà les Hornets qui misent encore sur lui. Il est dans le projet, évidemment. Il colle bien à ces Hornets dans le style de jeu, dans l'athlétisme, la vitesse, etc. Je suis assez confiant. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'il est dans le projet de ces Hornets sans trop de problèmes. Troisième et dernier français pour la météo.
C'est ça. On aurait pu parler de Modi Awara et de ses seulement 8 minutes de jeu.
Ouais.
Lié à l'arrivée.
On va attendre de voir ce qui se passe effectivement. Le temps de jeu avec Soran et tout qui arrive.
Il a pas beaucoup joué non plus.
Beaucoup... 9 minutes pour l'un, je crois, et 10 pour l'autre.
Ouais, c'est ça. On verra ce que ça donne. Mais on est parti sur Sidi.
Ouais.
Tout simplement, on vous a parlé de cette situation de contrat il y a quelques temps. Ça y est, Sidi a atteint les 50 matchs en tant que two-way player. Donc il ne peut littéralement plus jouer en NBA tant qu'on ne lui signe pas un contrat. Et ce qui tarde un peu à être fait, peut-être pour des histoires de banque. En fait, je crois qu'ils sont seulement 1 million et quelques. En dessous de la luxury tax et signer Sidi à ce moment-là de la saison avec ce nombre de matchs qui restent à jouer, les frais passés au-dessus, il paraît que c'est lié à ça. Mais on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on l'a mis là justement parce que pour l'instant, il est puni de NBA, quoi, le Sidi.
Ouais, donc on sait plus, on attend de voir sa situation contractuelle qui pour l'instant le bloque, si j'ai bien compris, Robert.
C'est ça.
Okay.
Pour l'instant, il peut jouer qu'en G-League. Et du coup, avec ce qu'il a montré cette année, c'est pas l'image de sa saison et de son niveau. Donc pour l'instant, il pleut. Mais espérons que dans une semaine, il ait un contrat garanti. Mais ça pourrait prendre plus de temps que ça aussi, de ce qu'on est en train de lire. Donc, on verra.
On va suivre ça avec attention et on espère l'ensoleiller dans une future météo des Français.
Exactement. On va finir avec l'instant hot take. L'instant hot take, on va peut-être commencer par dire...
Ça se voit, non?
le reste de ton gage, je te
mais
laisse...
Mais je commence à être à l'aise, tu vois, avec ce Dennis Rodman, qui est un petit objet de collection, ma foi... J'ai trop de couches en dessous. J'allais dire forcéant, mais je suis un peu avec le suite en dessous.
Tu t'en fous des Kings, tu peux venir avec nous. C'est pas beaucoup plus attrayant. Mais...
Écoute, c'est ce que je vais faire parce que mon Kings time, comment dire, non, c'est mal formulé. Mon temps de cerveau disponible pour les Sacramento Kings
a baissé.
Ah bah là, il le mérite. Il le mérite. Donc ce temps de cerveau disponible, qui est pas non plus le plus élevé au monde, mais qui est assez conséquent. Hein, je suis des Kings depuis. Robin, je te l'offre. Oh.
Ça me va
tu
droit
mérites, tu as gagné. Je te l'offre, pourquoi ? Pour essayer de t'aider à y voir plus clair dans ces Neo Bulls. Parce que c'est le bordel.
C'est un gage, hein, quand même, on va le rappeler. Hein.
C'est le gage, c'est le vrai gage. Là, j'ai porté le maillot pour l'émission. Mais le vrai gage, en gros, c'est que je vais regarder avec attention les prochains matchs des Chicago Bulls. Ça va, c'est pas les pires. Vous jouez Pistons, Knicks,
Hornets, ça avant Hornets, la semaine prochaine.
Voilà. Et te faire une sorte de séquence la semaine prochaine, sans doute dans la section tech au début. D'essayer de comprendre un peu, de voir un peu, d'y voir plus clair en fait, entre les rotations, qui garder ou pas, parce que c'est beaucoup de joueurs en fin de contrat, il va y avoir des décisions, voilà, tout simplement, un peu d'analyse
financière et tactique.
Ouais, et puis tactique, et puis des petits points de détail aussi, on va se marrer je pense, parce que je vais repérer des trucs, mais sur ces Neo Bulls qui quand même, je t'avoue, c'est un gage assez cool, ça m'intrigue.
Et ben, je suis ravi que tu aies hâte de voir Rob Dillingham et Jaden Ivey. Hein.
Qui jouait pas d'ailleurs hier.
Qui jouait pas hier, Jaden
Ivey. Parce que moi, je crois beaucoup encore en Jaden Ivey. Je crois qu'il y a un vrai truc. Je suis plus sceptique sur Dillingham.
Anthony Simmons.
Simmons,
Colin Sexton.
Pas trop. Ouais, bon,
il y a tellement de monde.
Voilà. Donc je vais regarder tout ça, puis je vous ferai d'ailleurs à tous, mais c'est pour Robin, c'est cadeau pour Robin, ce retour la semaine prochaine, ça te va ?
Ça peut être très utile de savoir à quel meneur regarder la saison prochaine.
Je sais pas dans quoi je m'engage.
Est-ce que Gershon régale toujours autant ? Hâte que tu me fasses
est-ce que Nick Richards est vraiment votre futur pivot remplaçant ? Non mais je te disais déjà, pour juste deux trois observations là-dessus, le vrai bordel là que vous avez, c'est que c'est très homogène. À part Guidi et Bouzélis qui pour moi sont des vrais titulaires je pense, et un peu les têtes de gondole. Vous avez des joueurs un peu de, et c'est jamais bon signe, de niveau un peu trop similaire, qui sont en fait tous des très bons remplaçants et des mauvais titulaires, on va dire ça comme ça, ou des joueurs à compromis, comme on aime bien le dire. Et je pense que mon expérience de Sacramento Kings va être utile dans cette plongée dans les taureaux de Chicago.
Et bah parfait. Est-ce que tu veux nous parler de ta hot take pour cette semaine en dehors de ça, en dehors de
oui,
ce petit gage ?
Elle reste liée à cet exercice stylistique.
C'est vrai ?
Puisque je pense que je vais voir trois tôles. C'est ça ma hot take.
C'est une hot take.
Autant je vais te venir avec des analyses un peu individuelles sur le joueur, autant collectivement. Mais tu sais pourquoi ? Parce que hier, vous jouez les Raptors.
Ouais.
Très mauvais début de match et globalement, vous êtes à la traîne tout le temps. Et puis, il y a une impulsion en fin de match avec des choix assez intéressants de Donovan. Non, mais vraiment, vous remontez. Et là, d'un coup, la lumière s'éteint, volontairement ou pas, on ne sait pas, mais la lumière s'éteint, mais d'un coup, et il y a trois possessions.
Quelle surprise.
Ouais, et puis une petite défaite, c'est quoi, 109-101, je crois, alors que tu recolles à moins 2.
J'ai même pas regardé ça.
Je vais regarder plus les Bulls que lui, la semaine prochaine, c'est ça qui
possible.
Va se passer. Hein.
Mais c'est vrai qu'on reste sur 5-6 tôles de suite, nous, de base, donc hot take, oui. Petite mouille, bon, en vrai, on verra, c'est ça. Trois défaites, du coup.
Non, mais la vraie question, c'est...
Trois défaites de plus de 20 points.
J'ai essayé de comprendre.
J'essaie de tirer un petit peu la hot take.
Il y a... Non, alors, de la hot tech, dans un des trois matchs, vous prenez une tôle historique.
Ok, ça me va très bien.
Je vois, les Pistons sont peut-être capables. Faudrait voir avec la suspension. Tu vois, ce sera pas encore là, mais Duren va revenir là, je pense. Il y a moins que vous en preniez un plus 48 là qui pique très fort, un truc.
Ok,
on va pimenter un peu la hot tech.
Et ma hot tech, ça va être autour d'un retour. Je suis de Luka Doncic. Je trouve que ces derniers temps, on manque un peu de performance au scoring un peu monstrueuse. Cette semaine, ça joue les Clippers, le Magic et les Suns. Trois équipes dans lesquelles tu peux attaquer, dans lesquelles peut y avoir du scoring, etc. Donc moi, je pense que sur cette semaine, il tourne à plus de 40 points de moyenne. Ouais. Et je pense qu'il y a un pic, peut-être contre le Magic, pour aller, mais là, c'est un peu spécifique.
Un 60 ?
55. Ouais. Doncic tourne à plus de 40 points de moyenne avec un match à 55 points. Je pense que c'est déjà assez taillé comme ça. Voilà la hot take de la semaine. Je vais parler slovène.
On précise, il n'y a plus de gage. Hein. Le gage, non, mais on retrouvera peut-être. Oui. Moi, j'ai hâte de prendre ma revanche sur
sur une petite formule et à imposer un maillot de Marcus Cousins à Robin ou une comme ça.
Ce serait avec plaisir, j'adore des Marcus.
Bon, tu vois, il t'attend sagement.
Et c'est avec lui qu'on va conclure ce 5e épisode du Week Pass. Encore un plaisir.
Bah oui, écoute,
même dans une semaine, même dans une semaine avec moins d'actualité. On a réussi à trouver des trucs, on espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on repart sur la NBA plus intense, avec plus de vidéos de trash talk, plus de contenu sur les réseaux sociaux et un retour intense du basket. Quoi.
On est lancé dans une partie, c'est parti, les choses sérieuses commencent.
Ouais.
Et on va couvrir ça avec le Big Pass, j'ai hâte Robin, j'ai hâte. Et vraiment, j'ai hâte de voir les 3 matchs des Bulls.
Allez, avec grand plaisir.
Okay.
À la semaine prochaine, tout le monde. On vous fait de gros bisous et on espère que tout va aller en cette belle semaine.